en dire des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Mickaël Goncalves,
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. Sur la couverture, un grand M s'affiche en lettres noires. C'est surtout un roman impressionnant, écrit dans un style alerte et vif. Un roman qui se lit comme un thriller, salué comme un chef-d'œuvre par Roberto Saviano. Il a reçu le prestigieux prix Strega, l'équivalent italien du prix Goncourt. Et c'est aussi un best-seller avec plus de 300 000 exemplaires vendus. On le voit tout de suite, c'est un pavé, mais c'est aussi la première pierre d'une trilogie historique et romanesque autour de cet enfant du XXe siècle, devenu une des figures tutélaires du totalitarisme. M, en effet, c'est Benito Mussolini et celui qui tient la plume, c'est Antonio Scurati. M, l'enfant du siècle, traduit de l'italien par Nathalie Bauer, vient de sortir aux éditions Les Arènes et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Antonio Scurati.
Buongiorno, bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous sur RFI. Pourquoi est-ce qu'il fallait, pourquoi est-ce que c'était nécessaire de prendre la plume et de raconter la carrière politique de Mussolini?
Perché non era mai stato fatto.
Parce que ça n'avait jamais été fait.
Ovviamente io so bene
bien che évidemment, je sais qu'il existe des bibliothèques qui sont remplies d'études historiques, d'essais également sur Benito Mussolini. J'en ai d'ailleurs consulté autant que possible et le plus grand nombre possible. En revanche, ce qui n'avait jamais été fait, c'était raconter Mussolini, le fascisme, les fascistes et le fascisme par la lorgnette. Des fascistes sous cette forme littéraire du roman.
Non era mai stato
et ça n'avait jamais été fait, et parce que jusqu'à l'époque récente, il y avait une espèce de tabou,
de
prohibition culturelle, je dirais, qui était liée à l'histoire politique, idéologique de mon pays. Et ceci, si vous voulez, avait laissé dans l'ombre un aspect fondamental de cette histoire, à savoir
qui era Mussolini,
qui était-il Mussolini, qui était
perché e come hanno
pourquoi,
fatto ciò che hanno
comment
fatto.
Comment ont-ils fait ce qu'ils ont
et
fait
aveva impedito che
et
ceci
faisait qu'on n'a pas pu raconter tout ça sous la forme romanesque. Et ça, c'est un élément très important, je pense. Je suis romancier, essayiste à l'occasion, universitaire aussi, mais je crois dans la valeur cognitive de la littérature et plus précisément aussi dans la valeur démocratique du roman. Le roman, parmi toutes les formes littéraires, lyrique, poésie, drame, c'est, je dirais, la forme la plus démocratique.
Pourquoi ?
Ça ne requiert pas du lecteur une connaissance préliminaire de la matière, à la différence, par exemple, de l'essai. Il y a eu des essais sur Mussolini, mais pour les aborder, il faut avoir un certain nombre de connaissances, ce qui n'est pas le cas du roman, quel que soit l'âge, la carte d'identité, le niveau d'instruction, etc., un sexe, religion, on peut y aller. C'est ouvert à tous, ce roman, c'est donc très démocratique. De sorte que lorsque les conditions historiques ont été réunies enfin pour qu'on puisse aborder totalement librement et sans idéologie, sans controverse politique, ce qu'a été cette horreur, le fascisme, ben moi, à ce moment-là, je me suis senti à la fois libre et obligé et tenu de le faire. Et quand je dis libre, je ne veux pas dire impartial, il faut bien le dire, moi je fais partie d'une génération qui intellectuellement, au plan civil, au plan moral aussi, a grandi dans ces valeurs de l'antifascisme, et ce sont mes valeurs, mais pour autant, raconter sans voile, sans filtres idéologiques, sans avis préconçus, raconter ce qu'ils ont fait, ces fascistes, et pour moi, c'est une manière de contribuer à une nouvelle forme d'antifascisme.
Le lecteur découvre un avertissement en ouvrant le livre, un avertissement qui ressemble à ce qu'on a l'habitude de lire lorsqu'on ouvre un roman historique et qui est pourtant légèrement différent de d'habitude.
Les événements et les personnages de ce roman documentaire ne sont pas le fruit de l'imagination de l'auteur. Au contraire, les faits, les personnages, les dialogues et les discours relatés ici sont tous historiques, documentés et ou rapportés par plusieurs sources dignes de foi. Reste cependant que l'histoire est une invention à laquelle la réalité apporte ses propres matériaux, mais sans arbitraire.
Voilà, donc l'histoire, avec un grand H, hein, je précise, est une invention à laquelle la réalité apporte ses propres matériaux, mais sans arbitraire. Cela signifie, Antonio Scurati, que l'histoire avec un grand H, c'est une sorte de reconstruction ?
Sì, è una, questo noi in Italia è nel linguaggio tecnico dell'editoria, noi usiamo molte parole inglesi a differenza di voi francesi.
En anglais dans l'édition,
lo chiamiamo disclaimer.
On appelle ça le disclaimer.
È quell'avvertimento con cui di solito il romanziere si mette a riparo da alcune cause legali o problemi legali,
problemi giuridici eventuali,
nomina dei personaggi storici.
Nomme, par exemple,
io ho voluto fare un disclaimer al contrario, cioè di solito si scrive qualsiasi riferimento a fatti o persone realmente accaduti e puramente immaginari.
Les événements sont fortuits, etc.
Ho voluto precisare
sont
che tutto
également.
Ciò che i lettori leggeranno in questo libro, per quanto possa apparire incredibile, inverosimile, romanzesco,
è storicamente documentato. Documenté, au
al tempo stesso, però,
temps,
devo avvertire che,
je dois tout de même,
e qui cito un grande scrittore intellettuale tedesco,
Hans Magnus Enzensberger,
c'è l'atto della narrazione,
e
per quanti documenti io possa aver consultato e riportato in questo testo,
si,
alla fine l'artefice del racconto
des tas de documents,
sono
il
io,
cet artefice
e questo non mi posso
récit,
nascondere.
Ma
questo non può essere un alibi, però, per dire,
mais ça ne peut pas être un alibi pour autant, pour dire,
dipende
comme
da chi la racconta,
dire,
se i fascisti
ah,
la raccontano
hanno
una loro versione, se la raccontano gli antifascisti è un'altra versione, e le due versioni sono equivalenti.
E le due versioni sono equivalenti.
No, io qui mi fermo e metto un punto. È vero, c'è il narratore che si assume la responsabilità di dare forma al racconto.
Va assumer ses responsabilités par rapport à la manière de présenter le récit.
Les faits sont une contribution
à son invention, mais pour autant, le récit ne saurait être arbitraire.
Et c'est pour cette raison-là que vous avez choisi cette architecture en miroir, parce qu'en fait, chaque chapitre du roman est suivi par un très très court chapitre, avec des citations, avec des extraits de lettres, des extraits de journaux, des verbatims de discours. C'était précisément une façon de prouver au lecteur que le romancier savait s'arrêter, savait jusqu'où ne pas aller.
Sì, esattamente.
C'est exactement ça.
Ha due funzioni. La prima è quella che ha detto
lei.
Il y a
deux fonctions en fait. La première vous venez de l'exposer.
Non era mia intenzione sin dal principio farlo, ma mano a mano che scrivevo mi rendevo conto
je n'avais pas cette intention, mais au fil de l'écriture je me suis dit,
che mi erano serviti
en miroir,
per scrivere
les documents qui m'ont servi,
diciamo,
pour rédiger la partie, je dirais,
littéraire
de cet ouvrage,
avevano un effetto di
en miroir,
speculazione
avec
no?
le texte, et ça donne un effet, si vous voulez, effectivement,
quasi una mise en abîme, no?
De mise en abîme.
E al tempo stesso però una cosa che poi mi ha convinto e che io trovavo commoventi,
struggenti
quei documenti,
fait,
che sono
que
tutti coevi,
ces documents, ils me bouleversaient.
Cioè, sono tutti contemporanei ai fatti che io racconto,
tous,
non sono successivi.
Des faits.
Perché struggenti, perché commoventi?
Dans l'après-coup.
Perché
juste après.
Spessissimo questi documenti testimoniano di una verità
souvent,
di cui tutti noi possiamo
si
fare
voulez,
esperienza.
Ils témoignent d'une vérité
e cioè, la commovente cecità,
a savoir,
degli uomini riguardo alle loro stesse
la cécité de l'homme face
ci sono,
à sa vie.
Ci sono articoli, dichiarazioni di uomini di straordinaria cultura, di straordinaria intelligenza,
cultivés,
che dimostrano che non stavano capendo assolutamente niente di ciò che accadeva.
De ce qui est en train
e questo
de
è al tempo stesso commovente e inquietante,
la fois,
perché come Benedetto Croce, che fu un grande filosofo, una persona geniale,
non riuscì a capire il pericolo del fascismo, anche noi possiamo scoprire di essere.
On
peut se dire que nous-mêmes, à l'occasion, on peut être aveugle face
vita.
À ce qui se passe dans notre époque à nous.
Et c'est vrai, Antonio Scurati, qu'on a l'impression, lorsqu'on vous lit, que l'ensemble des intellectuels, des artistes, des journalistes, des historiens, des philosophes de cette époque, en particulier ceux que vous citez dans le livre, n'ont rien vu. Comment est-ce que vous expliquez cette cécité, cet aveuglement?
Francamente, non ho una risposta
Franchement,
facile.
Je n'ai pas de réponse simple.
Allora, si potrebbe attribuire a una sorta di accecamento ideologico. Il XX secolo è il secolo delle grandi ideologie e quindi dei grandi totalitarismi. È il secolo in cui gli uomini cercano di mettere in atto e in pratica le nuove idee formidabili del secolo precedente. Allora si crea questa situazione di fortissima polarizzazione agli estremi. Da un lato ci sono i cosiddetti rivoluzionari di destra che vogliono dare l'assalto alla storia, armi in
en finir
no,
avec
pugnale,
l'histoire, avec
bombe,
le gourdin, les bombes, les armes.
Italiani,
ça, ce sont
poi
les fascistes italiens, on aura après les nazis, et puis bien d'autres, dans le reste de l'Europe. Et puis de l'autre côté, nous avons une autre armée
no,
de militants
infliggere e a subire la violenza per realizzare l'uomo nuovo, il mondo nuovo,
la souffrance e la violenza e alla vivere.
Milioni di donne e uomini che si ispirano al radioso ideale socialista di una
sont
società più giusta,
par cette idée radieuse du socialisme, d'un meilleur avenir pour les enfants, d'une meilleure vie pour tous.
In mezzo
et au milieu, nous avons
les
modérés, les libéraux,
et les personnes qui n'ont pas cette pulsion furibonde vers une transformation violente de la réalité,
forte vers une transformation violente de la réalité. Et ils constituent d'ailleurs probablement la majorité, mais ce sont des gens qui sont perdus, complètement perdus, déboussolés.
Da compatire, perché noi oggi possiamo rimproverargli tutti quegli errori di cecità,
une certaine compassion, parce qu'on peut leur dire aujourd'hui, leur faire un procès en disant ils ont été aveugles, ils n'ont rien vu, les parlementaires. Les représentants politiques ils vont essayer de trouver des accords avec Mussolini pour essayer de le dompter éventuellement et de l'insérer dans le jeu parlementaire.
Mais
en même temps, et c'est l'intérêt du roman, si on se met à leur place, qu'est-ce qu'on voit ? Ce sont des gens simples, des gens comme tout le monde, des travailleurs qui sont pris entre deux armées fanatiques, armées qui marchent
à rythme avec les tambours de guerre,
qui marchent avec les tambours de guerre et à rythme soutenu, et ces gens-là au milieu sont complètement perdus, annihilés.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
Avec l'écrivain italien Antonio Scurati qui publie M, l'enfant du siècle aux éditions Les Arènes. Et s'il est l'enfant du siècle, c'est d'abord parce que Mussolini est l'enfant de la guerre. Antonio Scurati, enfant du bain de sang, de la guerre, donc enfant d'une victoire mutilée, pour reprendre l'expression du poète Gabriele D'Annunzio, puisqu'elle n'a pas reçu l'Italie les territoires escomptés, parce qu'elle a l'impression d'avoir été méprisée par le reste du camp des vainqueurs. Est-ce que le fascisme, c'est d'abord une révolte de frustrés?
Assolutamente sì.
Absolument.
Io credo che questa sia la chiave più
la
chiave decisiva per la comprendere
la clé de lecture de compréhension la plus importante si on veut comprendre ce qu'il a pu faire et ce qu'il l'a amené.
Voi dovete tenere presente questa scena.
N'oublions pas.
È finita la prima guerra mondiale, il vecchio mondo è stato distrutto,
le vieux monde a été détruit. Au sens strict du
milioni
terme,
e milioni di morti, milioni e milioni di feriti
milioni
e mutilati,
de blessés, de mutilés,
un'epidemia,
guerre,
quella di febbre spagnola, che ha fatto da sola 20 milioni di morti in tutto il mondo, tre grandi imperi che hanno governato l'Europa per secoli, che sono crollati nel giro di pochi mesi,
qui s'effondre en quelques mois.
È una fine ed è un nuovo inizio.
C'est la fin de quelque chose, c'est aussi un nouveau commencement.
Uomini come Mussolini avevano la piena consapevolezza che in quel momento storico tutto era possibile.
Che c'était un moment historique et qu'à ce moment-là tout
Mussolini viene espulso dal Partito
Mussolini
Socialista.
Mussolini est exclu du Parti Socialiste.
Di cui era uno dei leader più amati.
Il était l'un des leaders.
È uno sbandato, non ha seguaci. Fonda il suo giornale.
Il était tout seul,
fonda il suo movimento, i fascisti di combattimento.
Il monte son journal,
ha pochi seguaci, recluta dei professionisti della violenza.
Gli ex prône la violence.
Arditi, le truppe d'assalto della prima guerra mondiale.
Donc les troupes d'assaut de la
si candida alle prime elezioni nel novembre del 1919.
Novembre 1919.
Ah, lista anche degli uomini famosi, Filippo Tommaso Marinetti, l'inventore del futurismo.
Tommasi è presente, l'inventore du futurisme, il y a des gens. Qui sont là à ce moment-là autour de lui.
Toscanini, le grand directeur d'orchestre, qui poi diventerà una bandiera
Toscanini, aussi, qui plus tard s'inscrira en faux contre le
risultato delle elezioni è un fiasco totale.
Bref, le risultat,
prendono solo 4.000 voti in
complet,
tutta Italia.
4.000 voix,
i loro avversari politici, i socialisti, prendono 1.300.000 voti.
Les adversaires politiques, à savoir les socialistes,
allora, 4.000 da una parte, 1.300.000 dall'altra.
1.300.000
siamo nell'autunno del 1919.
19.
Soltanto tre anni dopo, nell'autunno del 1922, Mussolini
22,
con la marcia su Roma conquisterà il potere.
Avec sa marche sur Rome, Mussolini va conquérir le pouvoir. Comment est-ce que c'est possible? Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces trois années?
È accaduto esattamente ciò che diceva lei.
Eh bien, exactement
Mussolini,
ce que vous disiez, à savoir que Mussolini,
che aveva fatto parte del Partito Socialista,
fait partie, donc, du Parti Socialiste,
la cui passione politica dominante era la speranza.
La passion politique dominante était
la speranza in un futuro migliore. Vi ricordate il simbolo del socialismo quando esisteva il socialismo?
Vous souvenez le symbole du socialisme? C'était le soleil de l'avenir. C'était ça.
Mussolini capisce
donc, Mussolini
che esiste moment-là, il comprend
qu'il y a une passion politique qui est encore plus puissante que l'espoir.
Et cette passion
politique, c'est la peur.
Ci sono tantissimi italiani che sperano
nella rivoluzione. Les Italiens espèrent et attendent quelque chose de cette rivoluzione.
Italiani che hanno paura della
rivoluzione. Il y en a aussi beaucoup qui ont peur de cette rivoluzione.
Si sentono traditi dalla vecchia classe dirigente.
Sono
frustrati perché le promesse fatte dalla vecchia classe dirigente per la guerra non sono state mantenute. I piccoli borghesi si sentono déclassati, sentono di perdere quel poco che hanno.
Sono rancorosi, ils ont de la rancœur, ils ne sont pas contents. Et Mussolini, à ce moment-là, va comprendre, et il le dit d'ailleurs, il dit qu'il doit souffler sur les braises de ces passions tristes, c'est-à-dire ressentiment, tristesse, peur, etc., sensation de trahison également.
Lo porta al potere.
Et c'est ça qui va le porter au pouvoir.
Mais ce qui est frappant, Antonio Scurati, c'est que Mussolini sent le vent de l'histoire. Hein, il sait profiter des occasions, il sait profiter des lâchetés de la classe politique. Vous parliez des libéraux, vous parliez des socialistes, de l'ensemble de la classe politique italienne, à quelques exceptions près, hein, il faut quand même le préciser, vous montrer qu'il s'est rusé, il s'est adapté aux faiblesses du système politique, aux faiblesses de la démocratie parlementaire, il sait réagir aux fautes de l'adversaire. Vous diriez que c'est un tacticien ou un stratège ?
Non, Mussolini non conosceva nessuna strategia.
Il connaissait rien de tout ça, de stratégie en tout cas.
Lui era tutto tattica.
C'était vraiment de la tactique pure.
Lui praticava quella che io definisco la supremazia tattica del vuoto.
Il pratiquait ce que j'appelle la suprématie tactique du vide.
Mussolini non aveva programmi, ne aveva scritto uno a Sansepolcro, ma lui stesso lo considerava carta straccia.
Pour lui,
lui non aveva idee.
Il n'avait pas d'idée.
Un suo contemporaneo disse Mussolini usa le idée per liberarsi dalle idee.
Il utilise les idées pour se libérer.
Lui non aveva sentimenti.
C'est un de ses contemporains qui avait dit ça. Il n'avait pas non plus de sentiments.
Un suo contemporaneo disse Mussolini
a dit, un de ses
può
contemporains
recitare
a dit,
qualsiasi sentimento perché non ne prova
quel
nessuno.
Puisque de toute façon, il n'en ressent aucun.
Mussolini non aveva principi. Lui era socialista e diventa fascista. Era anticlericale e poi si sposa in chiesa.
Il était
sostiene D'Annunzio e poi lo tradisce.
Il se marie à l'église, etc.
Non aveva nessun tipo di fedeltà. Perché mi dilungo in questo elenco?
Perché
non mi interessa un giudizio morale su Mussolini. Quello è assodato.
Ce qui m'intéresse, c'est pas du tout un jugement moral sur Mussolini.
Perché Mussolini, in quanto tale,
ce qui m'intéresse,
con questo tatticismo esclusivo ed
esasperato,
diventa l'archetipo di ogni leader populista del secolo a venire. Populiste
du siècle qui viendra.
Mussolini non è solo il fondatore del fascismo.
Il n'est pas simplement le fondateur du
l'inventore del populismo.
Il est aussi l'inventeur
il populismo
du populisme.
Consiste in questo.
Le populisme, ça consiste précisément en ça.
Il leader populista non guida le masse precedendole.
Entraîner les masses en étant devant elles, en les menant vers des idées un peu éloignées de hautes idées vers lesquelles on va aspirer.
Il leader populiste guida les masses seguendo.
Le populiste,
stando un
il
passo
suit
di loro.
La masse. Il est même un pas derrière.
I loro umori.
Il flaire, il sent l'air du temps,
sempre malumori.
Et malheureusement, ces gens, le plus souvent, ont des sentiments plutôt négatifs.
Hein.
Il se remplit de cela.
Est-ce que c'est un démagogue?
Ah beh, certamente, però è un Bien demagogo sûr. Di tipo nuovo, ripeto,
Mais,
è un demagogo che guida...
D'une nouvelle espèce, un démagogue
non
nouvelle
precedendo,
façon,
ma seguendo.
Qui va mener
lui
non
diceva,
pas en se mettant devant, mais
di
derrière la masse.
Lui diceva, io
il
sono
disait,
l'uomo del dopo.
Il disait, moi je suis l'homme de l'après.
Vengo un attimo dopo,
j'arrive
non précedo.
Juste après, je ne précède pas.
Nous sommes page 635 de votre livre, la scène se passe en janvier 1923.
Désormais, où qu'il aille, son corps attire les gens avec la force d'un élan sexuel. Lorsqu'il parcourt à pied le trajet qui le mène de son bureau au Grand Hôtel, on l'assaille dès la Piazza Colonna, tente de le toucher, en adoration, en plein orgasme face à cet homme politique nouveau qui vient de la rue, de la foule, qui vit en contact direct et personnel avec elle, exhibé, exilé, obscène, ce fils de forgeron qui balayera les vieux politicards inconnus des masses, perdus dans le secret de leurs intrigues et de leurs manœuvres de palais. Où qu'il aille, la multitude l'entoure, les trains, dehors, sur la place. Voici l'homme nouveau, l'homme de la jeunesse contre la vieillerie, de la renaissance après la décadence, de la santé face à la dégénération. Voici l'arbitre du désordre, l'initiateur d'une ère, l'obstétricien de l'histoire. Cet accouchement difficile. En comparaison, les politicards de la vieille Italie qui minaudent avec les formules parlementaires aux gourances, quand ils donnent encore quelques signes de vie, évoquent ces larves sortant des cimetières de la préhistoire. Voici l'homme fort, l'homme de la force physique, il n'y en a pas d'autre. L'homme qui apaisera la violence qu'il a déchaînée, l'homme qui apprivoisera la férocité engagée, car il n'y aura bientôt plus deux fronts, mais un seul. L'homme qui assure les pauvres gens pris entre le marteau et l'enclume, l'homme qui a créé le désert et qui lui a donné le nom de paix, voici le dompteur qui entre dans la cage aux fauves, alors que le public retient son souffle et qui, d'un coup de fouet, impose au lion d'ouvrir et de refermer la gueule, à ses ordres, à la baguette, parce qu'ils lui appartiennent. Voici l'homme du destin, précédé par des signes, des prophéties, des épisodes prémonitoires, le génial despote capable de subjuguer les masses et de ramener l'ordre, le triompheur trop longtemps attendu par un peuple déprimé à cause d'un drame interminable, infructueux, ennuyeux, où tout est enchaîné, mais où rien n'est jamais fatidique. Il le sait, il ne peut l'ignorer, car ses adversaires, les derniers, continuent de lui répéter « Le pays est là, déchiré, abattu, il rêve de repos, il rêve d'un sommeil sans rêve, d'un rêve facile. Le pays est là, et pour cette raison même, il est, lui, infatigable. »
Antonio Scuratti, on l'a bien entendu dans cet extrait, vous utilisez énormément de vocabulaire autour du corps, autour du sexe, autour de l'instinct, autour de finalement tout ce qui est animal. C'est un animal, Mussolini, plus qu'un être humain?
Si, ma lui oui. Lo diceva di se stesso.
Mais il le disait lui-même.
No, ho avuto un attimo di esitazione prima di rispondere.
J'ai
perché
avant de répondre,
io in Italia non lo dico, ma qua sono all'estero lo posso dire. Pensi
Italia,
che io mi trovo
pas,
nella situazione assurda e paradossale
di
essere stato querelato per diffamazione da una bisnipote di Mussolini,
che non ha a cui non è piaciuto il ritratto di suo nonno.
Pensate se nel 2020 uno scrittore può essere querelato per aver diffamato in un romanzo Mussolini,
in giustizia perché ha scritto un romanzo su Mussolini, alors que je pense que l'histoire a bien prononcé son jugement sur cet homme et de manière définitive. Enfin bref, en tout cas, oui, il le disait lui-même, Mussolini disait, il n'y a rien à faire, moi je suis une bête, comme un animal, je sens l'air du temps.
Ecco, questa... Però questo non deve indurci a sottovalutare Mussolini.
Mais ça ne veut cioè, pas dire pour autant qu'on sous-évalue Mussolini. C'est en voir tous les aspects.
Négatifs, dégénératifs.
En voir le côté dégénéré, tous les aspects négatifs. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut, si vous voulez, balayer tout ça d'un revers de la main avec suffisance en disant oui, c'est une manifestation de bêtises. Pas du tout. Bien au contraire. Ce sont des armes politiques extrêmement efficaces.
Che voyez, lei a giustamente notato.
Vous évoquiez à juste
ora,
titre
quando noi vediamo
corps,
i filmati d'epoca,
bah, voyez, quand on voit les films
30,
de l'époque, surtout dans les années 30, qu'est-ce qu'on voit? C'est Mussolini qui gesticule
et allora
de manière presque ridicule, et on dirait bon, voilà, c'est un peu un guignol, ce phénomène était un peu ridicule également. Mais ça n'est pas le cas.
Mussolini gesticola in quel modo perché il primo politico del XX secolo che mette al centro della comunicazione politica il corpo.
Centre, le corps au centre de la communication
quindi,
politique, c'est lui.
Quindi, negli anni 70, nel 77,
si diceva
on disait le corps
est politique, il faut politiser le corps.
Perché
il l'avait fait, lui,
lui
depuis les années 20.
Nell'era della politica delle masse,
il comprenait qu'à l'époque de la politique des masses, le corps est un outil de communication, c'est un langage beaucoup plus puissant que celui qui sollicite l'esprit. Tout le monde n'a pas de doctorat ou de licence, mais tout le monde a un corps. Et quand on voit, par exemple, aujourd'hui, des gens comme Trump, populiste
ridicolo,
qui nous semble quasiment ridicule,
con quel suo ciuffo,
avec sa grande mèche là,
con quel suo corpo così eccessivo,
corps,
ma così ostentato,
avec cette ostentation.
Noi intellettuali siamo portati
nous,
à liquidarlo come un personaggio
on voudrait l'évacuer en disant bah,
sciocco,
il est ridicule, c'est un guignol et il est bête, mais c'est nous qui nous trompons et qui sommes bêtes. Non pas que ça doit
nous
plaire, mais il ne faut pas se méprendre, il faut comprendre quelle est la puissance de communication, le danger qui réside aussi dans cette forme de communication, remplacer le corps, remplacer pardon la raison par le corps, voilà ce que cela entraîne.
Thank you.
ouverture de La Force du Destin, l'opéra de Verdi, interprété ici par l'orchestre de la NBC sous la direction d'Arturo Toscanini, grand chef d'orchestre italien s'il en est, le premier chef d'orchestre starifié d'ailleurs, et on le croise, hein, vous en parliez vous-même tout à l'heure, Antonio Scurati, dans votre livre. Toscanini a été candidat sur une liste fasciste en 1919, avant de prendre ses distances avec Mussolini, et ensuite de s'engager contre le fascisme. Il fait partie de la kyrielle de personnages secondaires que l'on retrouve dans le livre. Il y en a énormément. Il y a les socialistes, les libéraux, il y a évidemment quantité de leaders fascistes au niveau national, mais aussi surtout au niveau local, hein, il y en a énormément. Et c'est important, tous ces personnages secondaires, parce qu'ils nous permettent finalement de comprendre comment s'est stratifié le fascisme. Comment est-ce qu'il est né? Comment il a grandi? Comment petit à petit il a essaimé, essentiellement d'ailleurs dans le nord de l'Italie dans un premier temps. Le ciment de tout cela, on parlait de stratification à l'instant, le ciment de tout ça, c'est la violence.
Si. Indubbiamente. Lei pensa, intanto noto con piacere che lei non è superstizioso.
Je remarque que vous n'êtes pas superstitieux au passage.
Quell'opera di Verdi,
puisque cette œuvre de Verdi,
i superstiziosi non la nominano mai perché ritengono che porti sfortuna e quindi come vedete io non la sto nominando.
Ça porte malheur. Ma donc ça n'est pas votre cas.
La force du destin.
A parte gli scherzi.
Je plaisante, ceci étant, imaginez-vous que cette liste sur laquelle s'est inscrit Toscanini en 19, avant de prendre ses distances avec le fascisme, c'était la liste Thévenot.
Thévenot era una granata da lancio, una bomba a mano.
La Thévenot, c'était une grenade manuelle.
Ed era il simbolo elettorale dei fasci di combattimento.
C'était le symbole électoral des faisceaux de combat.
Et non si può immaginare un nome, un simbolo più
comment
esplicito
riguardo
quelque chose
de plus
explicite
quand même pour
al centro,
dire précisément que la violence
quasi,
est bien au centre
del fascismo.
Et le creuset même de ce fascisme.
Ma la cosa molto importante da capire,
per non semplificare, per non liquidare, pour ne pas simplifier, pour ne pas évacuer les choses trop rapidement,
non è solo una violenza che viene esercitata,
elle n'est pas simplement exercée,
contre
employé
les socialistes,
par contre les fascistes, contre
poi,
les socialistes, contre les dissidents, contre les opposants.
C'est un type de violence
qui devient un objet de désir
da parte
politique
di larghissimi strati della popolazione,
des couches
che non
très importantes de la population qui n'utilise pas en tant que telle, à titre personnel, la violence.
Tantissimi piccoli borghesi,
tous ces petits
che
bourgeois
sono bravi padri di famiglia,
qui sont de bons pères de famille, des travailleurs comme il faut, des gens sans histoire, bien, tous ces gens-là vont commencer à désirer politiquement cette violence qui va être exercée par les fascistes, puisqu'ils voient dans cette violence, ces gens-là, la possibilité d'éloigner, bien sûr, la menace de cette révolution socialiste, certes, mais aussi le moyen de faire une simplification brutale et assez illusoire,
allora,
donc, de la complexité qui est celle de la réalité à ce moment-là. Je suis heureux de pouvoir le dire ici, parce que, voyez, pendant que je vous parle, je vois sur les écrans les voix du monde, qui défile sur nos écrans.
Uno delle,
et ceci m'amène à vous dire que l'un justement des schémas de propagande, c'était vous êtes, l'envahisseur est à nos portes.
Donc,
les fascistes brandissaient cette menace de cet étranger qui allait envahir l'Italie. Et qui étaient-ils, ces étrangers? Les socialistes.
Ma dici, ma come? I socialisti erano italiani.
Les socialistes,
no?
Ils sont italiens, non?
Alle prime elezioni prendono 1.300.000 voti.
Ils ont quand même eu quelques 1.300.000 voix.
No, perché i fascisti dicono, visto che loro,
vous disiez,
si
les fascistes, vous comprenez
rifanno,
ces gens-là,
guardano alla rivoluzione russa,
ont pour objectif la révolution à la Russe, n'oublions pas qu'en 1917
avait eu la
révolution en Russie. Donc ces gens-là ne sont pas des Italiens, ce sont des porteurs de la peste asiatique, disait-il,
allora,
je cite, ils sont donc anti-italiens. Alors que disent
dicono,
les fascistes face à ça?
La réalité non
disent,
così complessa, come voi
la réalité
pensare,
n'est pas aussi
ci fanno
complexe
credere
que
queste
vous pensez, que ce qu'on nous raconte, toutes ces vieilles momies de la politique démocratique vous racontent des falaises. C'est beaucoup plus simple
Ranieri,
que cela. Nous avons un ennemi, l'envahisseur étranger, qui menace de venir s'installer dans notre pays.
La morte non arriva dappertutto, come era accaduto nelle trincee
de
della
partout,
prima guerra mondiale.
Comme c'était le cas dans les tranchées pendant la première guerre mondiale. Là, cette fois-ci, la mort, elle arrive d'une seule direction. Elle est là, en face de vous, vous avez un seul et unique ennemi, c'est le socialiste ou les socialistes.
Et io starò a fianco a te.
Eh bien, moi je suis là, à vos côtés.
Ecco, voi sostituite i socialisti con migranti.
Remplacez les socialistes par le terme migrant.
E vedrete lo schema propagandistico utilizzato dai populisti oggi.
Est utilisé par les populistes aujourd'hui.
Est-ce que vous pensez à quelqu'un comme Matteo Salvini, par exemple?
Ma sì, certamente, ma.
Bien sûr.
Però. Non pensiate che perché io italiano di sinistra,
puisque je suis intellettuale italiano
di sinistra, indico facilmente il Matteo Salvini,
un populista che utilizza questo schema propagandistico, che la questione sia finita qui. N'allez pas croire
Salvini
que
non è l'unico.
Il est pas tout seul, Salvini.
Salvini non è l'unico.
Il n'est pas tout seul.
In ogni paese, in Europa.
Seul, car, tous les pays européens, je dirais,
et
dans le reste du monde, ces dirigeants populistes, ils sont de retour.
Non solo in Italia, in tutta Europa,
en Italie, mais pas
c'è
seulement.
Una quota crescente
on
di
a
cittadini
en Europe de plus en plus
che sono pronti
de citoyens
a cedere
qui sont prêts
le libertà
democratiche, à céder
faticosamente
leur
conquistate
liberté démocratique qui ont été difficilement acquises par les antifascistes il y a 70 ans. Ils sont prêts à donner ça contre une promesse illusoire, j'ajoute, de sécurité.
Il y a aussi un autre personnage très important dans ce livre, Antonio Scuratti, c'est Giacomo Matteotti. Alors Matteotti, il est socialiste, c'est un député socialiste. On le retrouve très régulièrement dans votre récit, de façon extrêmement discrète au début et ensuite de façon de plus en plus affirmée. À plusieurs reprises, il va monter à la tribune du Parlement pour dénoncer, pour mettre en garde. Alors il n'a pas forcément de grandes envolées lyriques, c'est pas du tout un tribun, c'est plus un scribe. Quelqu'un qui note très précisément et qui dit les faits de façon très, très méthodique. Est-ce que vous avez de l'admiration pour Giacomo Matteotti, Antonio Scuratti?
Beh, certo, Matteotti.
Oui, bien sûr.
Per gli italiani che in qualche modo
Matteotti,
pour
les Italiens qui sont issus de cette culture démocratique et socialiste, cet homme-là, c'est un petit peu le saint laïque, si vous voulez.
Ma proprio per questo,
mais pour
io
cette
ho
raison,
voluto raccontarne
précisément,
eh bien, alcuni risvolti
voulais,
umani,
si
diremmo,
voulez,
e
le
psicologici, che
dans
ci mostrano come lui non fosse affatto un santo.
Dans ses aspects humains, psychologiques, qui fait que ce n'était pas un saint, c'était un homme avec ses fragilités. Ses faiblesses, ses excès
et
parfois.
Io lo il
et comment est-ce que je le présente en fait, je vais utiliser,
quale,
si vous voulez, les échanges entre
Matteotti
son épouse et lui.
Solo,
lorsqu'il reste quasiment seul, le dernier à s'opposer à Mussolini,
scriba,
eh bien,
dice bene lei,
avec ses écritures, si vous voulez,
lo invita a smetterla.
Sa,
dice, ma
son épouse lui dit,
noi abbiamo dei figli
il faut
da
laisser
crescere.
Tomber, on a quand même
tu
des enfants,
il
faut qu'on s'en occupe, ça c'est du suicide, ils en ont déjà tué d'autres avant toi.
Di ciò
elle
che,
l'accuse,
di
en fait, hein,
i suoi avversari,
de ce dont
cioè
l'accuse également les adversaires de cet homme,
puerile, infantile
en disant, tu es fanatique,
tu es ril,
infantile, et c'est
moglie.
Un dialogue vraiment
e quanto
touchant qu'il a avec
fosse coraggioso ed eroico
on voit que cet
uomo,
homme a été courageux, héroïque, précisément parce qu'il était un homme, pour
aveva
autant, avec parfois des aspects puerils, un certain fanatisme, il avait ses défauts. Comme tout un chacun.
Tenne la sua posizione
et pour autant, il a tenu le cap. Il a maintenu le cap jusqu'à ce destin qui lui avait été annoncé par son épouse. Imaginez, il était député, parlementaire, secrétaire d'un parti. Cet homme-là, quand même, a été enlevé
alla luce
en plein
sole.
Jour.
A Roma, in pieno centro,
à Rome, en plein centre de Rome,
lungo Tevere, come
le
se
long
fosse
du Tibre,
Senna,
comme s'il
Parigi,
était
centro,
en train d'être sur le bord de la Seine. C'est cinq
che
hommes
lo,
qui l'ont enlevé
che lo,
à ce moment-là.
Lo, a forza lo, e combatté. Cercò
et
di
il a essayé de se débattre,
lo
il a résisté, ils l'ont donc poussé dans une voiture et ensuite il a été poignardé.
Et c'est ce que vous racontez justement dans la dernière partie du livre, nous sommes page 775 de L'Enfant du siècle.
Doumini ordonne à Viola de démarrer et de rester avec lui dans la voiture. La Lancia Lambda se coule sur le quai, dépasse l'homme qui le parcourt sans chapeau, muni d'une enveloppe blanche, puis freine, s'arrête. Les portières s'ouvrent des deux côtés. Le premier à l'empoigner est Malacria, condamné pour banqueroute frauduleuse, ancien capitaine des Arditi, fils de Nestor, un général courageux. Albino Volpi, curieusement réticent, se contente d'indiquer à son compère l'homme à capturer. La troisième surprise de la journée, c'est que Matteotti, bousculé, réagit. Malacria trébuche, tombe par terre. Alors Volpi s'élance. Matteotti, frêle et nerveux, se bat avec lui aussi. Amleto Poveromo, bouché à l'écho, avance dans leur dos de son pas lourd. Il assène à Matteotti un seul coup de poing à la tempe, le coup de massue sur le crâne avec lequel il abattait autrefois les bêtes. Matteotti s'écroule. Entre-temps, Douméni les a rejoints. Les quatre hommes soulèvent, un par membre, le corps inerte. Le quatrième imprévu de la journée, la résistance de la victime. Matteotti se ressaisit et se démène. Ses ravisseurs recommencent à le frapper en le portant, mais il rue comme un forcené. Où trouve-t-il toute cette force? Peut-être dans le souvenir de son précédent enlèvement, dans ses campagnes de Vénétie, lors duquel on lui enfonçait, raconte-t-on, une matraque dans l'anus. Les voilà enfin dans la voiture, qui démarre, fait une embardée, s'engage sur le pont Milvius, cher aux amoureux, se dirige à toute allure vers le nord-est, vers la campagne, loin de la ville de l'Octroi. Tandis que les coups de klaxon couvrent les hurlements du kidnappé, telle la sirène d'un camion de pompiers courant éteindre un incendie. En voiture non plus. Sous les coups de ses trois agresseurs, Giacomo Matteotti ne renonce pas à lutter. Il résiste, à outrance. Il brise d'un coup de pied la vitre qui sépare l'habitacle du poste de conduite. Douméni, qui est assis devant et qui n'arrête pas de se retourner, inquiet, reçoit des éclats de verre en pleine poitrine. Ça ne devait pas se passer comme ça. La résistance n'était pas prévue. Bourré de coups, Matteotti s'obstine à hurler. Douméni s'étire pour lui clouer le bec. Le chauffeur klaxonne encore. Le hurlement de la victime trouble l'indolence de cet après-midi du début de l'été. Puis, l'agitation s'atténue. Les hurlements ont cessé. À leur place, un gargouillement, un râle étranglé. Douméni se retourne encore une fois. Giacomo Matteotti est pâle comme un linge. Sa bouche éructe à présent un vomi sanglant. Albino Volpi le serre contre lui, le bras gauche glissé sur ses épaules, ainsi qu'on étreint une fiancée. Sa main droite, engloutie par les plis de la veste claire, est enfoncée dans son côté.
Ouais, et le corps de Matteotti sera retrouvé un petit peu plus tard, hein, le 16 août 1924. Là, Antonio Scurati, on n'est plus dans un livre d'histoire politique, là on est dans une histoire de gangster, on est dans un film sur Chicago.
Sì, ma le due cose vanno assieme.
Oui, mais ça, ces deux choses-là vont
come,
ensemble.
Come dicevo prima,
comme je le disais i primi squadristi, no? Les premiers proches de Mussolini.
Quelli che facevano parte della milizia fascista,
della milizia fascista.
Le squadre, quindi in italiano si chiamano squadristi, che Mussolini recluta.
Les premiers dont il va recruter,
ce
sont en fait les anciens Arditi. Alors les Arditi, c'était quoi? C'était des troupes d'assaut, les corps spéciaux, si l'on veut, les troupes d'intervention spéciale, qui faisaient partie vraiment de la mythologie de la Première Guerre mondiale. Je ne sais pas si ça se dit en français, quoi qu'il en soit, on dit avoir le couteau entre les dents en italien pour dire qu'on en veut vraiment et qu'on veut y aller à la guerre. Et donc cette expression, elle fait encore écho aujourd'hui, si vous voulez, avec tout à fait l'iconographie de ces Arditi. Ils avaient un poignard et ils le mettaient en bouche au moment de l'attaque. Donc ces gens, ces Arditi, ça avait été vraiment des héros de la Première Guerre mondiale, dans toute cette propagande militiste de la Première Guerre mondiale. Ces gens-là étaient en fait souvent des délinquants de droit commun.
Pas tous,
il y avait aussi des volontaires qui y croyaient, mais nous avions des délinquants de droit commun, et on leur disait, eh bien, soit vous entrez dans les Arditi, où il y avait un taux de mortalité très élevé, soit vous allez en prison. Et donc, il comprend Mussolini, dès le début, que contre toutes ces raisons du prolétariat, il faut qu'il arme le sous-prolétariat.
E infatti la prima sede del Popolo d'Italia, il giornale che fu l'altra sua arma, si trovava in un quartiere di Milano,
che
sebbene noi adesso siamo abituati a pensare a Milano come città elegante,
la mode del design, Milano, tutto ça,
si trovasse proprio in centro, alle spalle di Piazza
Duomo,
era un quartiere che viveva interamente sulla Costituzione, e quindi era un quartiere di malaffare,
ed è lì che lui inizia la sua avventura. E c'est là qu'il va débuter son aventure.
Dans le livre, Antonio Scurati, le philosophe et historien Benedetto Croce cite Marx, qui dit ceci, « La violence est la sage-femme de l'histoire ». Vous êtes d'accord avec Marx?
Una domanda, non ero pronto a una domanda su Marx nel 2020.
Je n'étais pas prêt, si vous voulez, à entendre une question sur Marx en 2020.
Credevo que non si potesse più nominare
Karl Marx. Je pensais qu'on
ne
pouvait même plus le nommer, Karl Marx.
No, non c'è dubbio, noi ci siamo abituati a pensare alla storia,
nous sommes
come
habitués
a una,
à envisager l'histoire,
à une série di
si vous voulez,
accadimenti
comme une série
violenti,
d'événements violents,
di rottura,
des moments de rupture,
rivoluzioni, migrazioni di popoli, catastrofi,
catastrophe.
Questa è un'idea della storia.
Ça, c'est une idée de l'histoire.
Ed è il motivo per cui io e la mia generazione, che abbiamo avuto l'enorme privilegio di nascere nell'Europa occidentale,
de vivre
bisogna fare
occidentale.
Questa distinzione, tra la fine degli anni 60 e i primi anni 70,
début des années
abbiamo
70,
fatto parte di quel pezzetto
nous,
piccolo
nous avons
d'umanità,
cette petite tranche d'âge, cette petite ouverture dans l'humanité, qui a
longevo,
des bonnes conditions de santé,
il meglio nutrito,
longtemps,
il meglio vestito, il più curato, il più sicuro, che abbia mai calcato la faccia della terra, rispetto a qualsiasi altro luogo e a qualsiasi altra epoca.
Dans d'autres époques,
e però ci siamo sentiti orfani della storia, esclusi dalla storia.
Nous nous sommes sentis comme, comment dire, exclus ou orphelins de l'histoire.
Ora, noi pensiamo ai migranti.
Pensez aux migrants.
Quando sbarcano sulle spiagge delle isole del sud Italia
o della Grecia,
noi siamo bagnanti sulle spiagge dei migranti.
Nous, on est en train de, si vous voulez, se baigner, hein. Nous, on fait la baignade, nous, hein, sur ces plages des migrants.
E viviamo in tempi storici diversi. Loro vivono.
Autant dire que nous vivons un temps historique différent, eux et nous. C'est-à-dire que eux.
Un tempo della storia, al tempo stesso epico e tragico.
Epico e tragico.
Noi viviamo nella cronaca.
Dans le même temps, nous, on vit à l'époque de la chronique.
Delle nostre giornate più o meno tutte uguali, che non hanno altro orizzonte temporale che non sia quello del prossimo fine settimana.
Que le prochain week-end.
E la cosa paradossale, tremenda,
paradossale,
è che se anche loro sbarcano dallo stesso mare, sulla stessa spiaggia,
mer méditerranée et sur la même plage,
noi non siamo nello stesso luogo.
Pour autant, nous ne sommes pas eux et nous dans le même lieu.
È un incontro che
c'est
continuiamo a mancare.
C'est un rendez-vous manqué.
Antonio Scuratti, le deuxième tome de cette trilogie mussolinienne vient de sortir en Italie. Hein, ce deuxième tome, il couvre les années 1925-1932. Alors, le point final du premier tome, c'est donc l'assassinat de Matteotti. Pourquoi choisir 1932 comme point final du deuxième tome?
Perché il secondo volume
Parce
è dedicato al racconto degli anni
si
del regime
si
fascista.
Quando
il fascismo ha conquistato
fasciste,
il potere, diventa regime,
conquis,
un regime che va verso
un regime politico,
lo stato totalitario.
Qui s'achemine vers
Ora,
l'état totalitaire.
Gli anni sono molti. No? Io ho deciso di concludere quel racconto nell'ottobre del 1932 perché nell'ottobre del 1932, a 10 anni di distanza dalla marcia su Roma, il regime fascista organizza una grande mostra commemorativa, la mostra del decennale,
ce qu'on appelle l'esposition du
si storicizzano da soli, fanno da soli la propria storia.
Le mouvement va raconter sa propria storia.
Ed è un momento fatidico.
Créer son moment historique et c'est un moment
solo
fatidique
loro hanno
parce que non seulement
i nemici,
à ce moment-là ils ont battu tous les ennemis que ce soit les dissidents qui ont été persécutés, ils ont envoyé les gens en prison ou à l'autre bout du pays assignés à résidence où
ma
ils les ont tués non seulement ça mais là ils vont
storia.
Même leur retirer la possibilité de raconter l'histoire.
Quindi, è una sorta di annientamento finale, quando tu togli agli uomini, alle vittime, la possibilità di raccontare la propria storia.
On retire à la victime la possibilité de faire le récit de sa propre histoire.
Alors, on revient brièvement, Antonio Scuratti, à l'avertissement qu'on a entendu au tout début de l'émission, où vous disiez justement qu'il fallait surtout se départir de la question de l'arbitraire. Mais alors, justement, là, précisément, en choisissant de découper l'histoire comme vous l'avez fait, c'est un choix arbitraire, non ? Est-ce que vous aussi, vous ne courez pas le risque de tomber dans ce piège ?
Tutti corrono sempre il rischio.
Mais bien sûr, tout le monde le court ce risque,
Ma
toujours.
Io credo che una scelta,
Mais je pense que
un'autentica scelta non abbia a che fare con l'arbitrio.
Authentique n'a rien à voir avec l'arbitraire, en fait.
Abbia a che fare con l'etica.
Le choix, il renvoie à l'éthique.
L'etica, quando tu ti apri all'etica, quando
lorsque
tu ti consegni all'etica,
lorsqu'on
fai qualcosa liberamente,
éthique, on fait quelque chose en toute liberté,
perché è necessario farla.
Parce que c'est nécessaire de le faire.
Et quindi, da un certo punto di vista, scegli.
De sorte que l'on choisit.
Perché sapevi già di non avere scelta.
Mais on choisit parce qu'on savait d'emblée qu'en réalité on n'avait pas d'autre choix.
L'arbitrio invece. È quasi l'opposto.
Ça serait quasiment l'opposé.
Quando non c'è nessuna necessità. C'est-à-dire
qu'il n'y a pas de nécessité.
In ciò che fai.
Particulière aux actes que l'on pose.
La fin de l'histoire, c'est la mort de Mussolini ou c'est la mort du fascisme?
La fine di questa storia che io racconto.
La fin de cette histoire que moi je raconte.
Forse per, come dire, rovesciare la sua domanda.
Peut-être que je prendrai la question sous un autre angle.
È la morte del fascismo.
Je vous dirais c'est la mort du fascisme.
Ma non è la morte di Mussolini.
Mais ce n'est pas la mort de Mussolini.
Perché come le dicevo.
Parce que comme je vous le disais.
Io credo che Mussolini sopravviva alla fine del fascismo.
Mussolini en fait survécu.
In quella tipologia di leader che lui per primo ha creato.
À travers justement le type de dirigeant politique qu'il a créé,
calca di nuovo la scena del mondo.
Qui réapparaît aujourd'hui à la face
sotto
du monde,
le bandiere nere del fascismo.
Même si ce n'est plus sous le drapeau noir du fascisme.
Merci, merci beaucoup Antonio Scurati d'être passé par les studios de RFI. M, l'enfant du siècle est paru en France aux éditions Les Arènes, dans une traduction de Nathalie Bauer. Et je précise, Antonio Scurati, que vous participez au festival Italissimo qui se déroule du 7 au 13 octobre à Paris. Merci également à Hélène Joguet qui a traduit pour nous vos propos. Dans un instant, l'info sur RFI. À demain et vous m'en direz des nouvelles.
Pour nous faire partager vos bonheurs culturels et artistiques, écrivez-nous à vmdn@rfi.fr ou sur les réseaux sociaux.